France Musique.
Et aujourd'hui, notre légende, c'est le premier grand disque d'Arvo Pärt.
Thank you.
Le Cantus en mémoire de Benjamin Britten, signé Arvo Part, c'était l'orchestre d'État de Stuttgart, dirigé par Dennis Russell Davis, extrait d'un disque paru en 1984 sous le titre Tabula Rasa chez ECM. Trois pièces, enfin quatre, on va y revenir dans un instant, d'Arvo Part qui était au programme. Ce disque avait une histoire, parce que quelques années auparavant, Manfred Eicher, qui était le patron célèbre depuis du label ECM, avait entendu à la radio une pièce qui l'avait absolument fasciné. Comme c'était un compositeur peu connu, et puis qu'il avait entendu ça, je crois, en voiture ou quelque chose comme ça, il eut beaucoup de mal à retrouver ce que c'était. Eh bien, c'est des mois après qu'on lui raconta que c'était Tabula Rasa, d'un compositeur estonien, donc Arvo Pärt, qu'il avait trouvé à l'occasion. Il est allé chercher Arvo Pärt et puis il a proposé de faire un disque. Et ce disque, eh bien, c'était celui-ci qui rassemblait trois pièces du compositeur, ce Cantus qu'on vient d'entendre, Tabula Rasa, donc, et puis deux versions bien différentes de Fratres. Et ces pièces-là nous ramènent en fait au début des années 70, enfin au milieu plutôt de ces années 70, à un moment où Arvo Pärt était très marqué par tous les compositeurs d'alors, par l'esthétique post-sérielle, on va dire. C'est l'hérité de Stockhausen, Boulez, et très lointainement de l'école de Vienne, qui ne lui convenait pas. Et à un certain moment, après une longue période de crise, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il trouve son propre langage, qui serait tonal, spirituel, lié évidemment plutôt au minimalisme, ce qu'on appelait alors le mouvement sériel. Et il y a quelques pièces qui témoignent de ça, une sorte d'effloraison au milieu des années 70, d'où ce fratres, frère en latin, qui est aussi une référence à Benjamin Britten, vu comme une sorte de frère en musique. Une pièce qui est écrite au départ pour trois lignes, trois voix sans instrument prédéterminé, un peu comme l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Il en réalisa pas moins de 17 versions différentes à Arvo Pärt de cette même pièce. Alors il y en a une pour violon et piano qu'on retrouve sur ce disque, joué par Gidon Kremer et Keith Jarrett. Et puis il y en a une pour violoncelle, 12 violoncellistes qui sont ceux de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Arvo Pärt, fratresse pour 12 violoncelles, qui était ici de l'Orchestre Philharmonique de Berlin à l'occasion de cet enregistrement ECM en 1984, qui a été une sorte d'acte de naissance pour la musique d'Arvo Pärt. Des musiques qui ont été reprises, toutes celles de ce disque, très rapidement au cinéma par des chorégraphes, des artistes contemporains, enfin jusqu'à devenir une sorte d'incontournable de la musique d'ameublement, si j'ose dire, au sens en tout cas le plus noble du terme. C'était donc Tabula Rasa. Cet album Arvo Pärt sorti en 1984 pour aujourd'hui. Notre disque de légende à retrouver et podcasté sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Bon, c'était beau, mais un peu plombant quand même. Hein. On va essayer d'alléger notre après-midi avec cette petite curiosité enfantine et plus que cela. Accompagné par le clavecin d'une Madame Pelletier, c'était Yvonne Printemps qui chantait ici Au clair de la lune, vraisemblablement en l'année 1929. Et à l'époque, eh bien, on attribuait cette pièce, qu'on connaît tous évidemment, célébrissime, on l'attribuait à Jean-Baptiste Lully, figurez-vous. Et pendant longtemps, on a fait ça parce que on croyait en effet que ce Au clair de la lune était tiré de Cadmus et Hermione, une pièce en effet qui ressemble un petit peu, mais quand même de loin. Et comme pendant longtemps, on n'allait pas chercher à l'original, à la pièce vraiment de Lully, eh ben, tout le monde répétait Au clair de la lune, c'est de Jean-Baptiste Lully. Depuis, on a rétabli les choses, enfin, on ne sait pas trop de qui est cette pièce qui est évidemment dans les origines populaires, mais enfin, ça n'est pas de Lully, et ça semble tout à fait certain. On va en profiter quand même pour rester quelques minutes avec la belle Yvonne.
Enivrant mon cœur d'une
La nuit de Maurice Yvain. C'est absolument délicieux ce que faisait ici Yvonne Printemps, sous la direction de Marcel Cariven, dans cette pièce, avec sa voix incroyable, souple, charmeuse. C'est une véritable icône de l'entre-deux-guerres et de son insouciance, Yvonne Printemps, de sa liberté aussi, jusqu'à la liberté de mœurs, hein, parce qu'elle a eu une vie extraordinairement libre et très remplie côté homme, comme on pourrait dire. Sacha Guitry, Pierre Freinet étaient fous d'elle. Pierre Freinet, ce fut d'ailleurs une véritable histoire d'amour, ça n'empêchait pas l'un et l'autre de faire ce qu'ils voulaient de leur vie. On a du mal à penser comme contre ces deux drames absolus que furent la première et la seconde guerre mondiale, et bien il y a eu une période assez folle pour donner quelque chose comme la personnalité d'Yvonne Printemps. Et cette personnalité vocale aussi, tout le monde disait que c'était le rossignol par excellence, enfin un rossignol qui avait du caractère, beaucoup, une vraie diva, dit-on. Mais enfin, elle chantait quand même « Je ne suis pas ce que l'on pense ».
Vous avez l'air étonné.
Non, je suis heureux. Je vous vois tout à coup si différente. Au fond, vous êtes très gentille.
Chut, faut pas le dire.
Pourquoi?
Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux.
Vous donnez rudement bien le change.
Ben, je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'enquiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, quelle existence, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer sa réussite. Sur mon visage, je me compose un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit.
Yvonne Printemps qui chantait ici « Je ne suis pas ce que l'on pense », une sorte de portrait qui devient autoportrait, que lui avait écrit Albert Wimetz, pardon, pour les trois valses d'Oscar Strauss. Et celui qui lui donnait la réplique ici en 1937, ben c'était justement Pierre Freinet.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Gabriel Pierney fut un chef d'orchestre important d'abord, oui, dans l'histoire de la musique. Il faudrait peut-être lui faire une séance à l'occasion pour rappeler tout ce qu'il nous a fait connaître, enfin tout ce qu'il a dirigé pour la première fois. Mais il était compositeur avant tout, bien évidemment. On va écouter ici la version pour orchestre de ses cathédrales, pièce de 1915, qui est une pièce de guerre qui voit les tranchées et qui rêve de victoire.
Thank you.
l'Orchestre Philharmonique de la BBC, Juanjo Mena à la direction, dans cette pièce de Gabriel Pierney, ici très wagnérien, très listien aussi, les cathédrales, comme une sorte de grande variation un peu cachée sur la Marseillaise qu'on entendait tout du long, mais tellement masquée qu'on aurait presque pu la manquer. C'est une très belle pièce en tout cas, qui nous était offerte ici.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
À suivre une blague d'auditeur. Oui, c'est un très joli calembour que l'on doit à Monsieur Feuillère. Très drôle, je suis pas sûr que tout le monde appréciera, mais parce que c'est un peu sarcastique quand même, mais moi j'aime bien. Je vous dirai dans 6 minutes.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che a voi il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, marchesine, principesse, che fa ogni grado, ogni guarda, ogni età, ogni guarda, ogni età. In Italia, 640, in Almania, 231, ecco in Francia, in Turchia, 91, no, in Spagna. Compre queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, che vanno ogni, ogni colo, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
C'était Fernando Corena qu'on entendait ici chanter l'air de Leporello, l'air du catalogue, au premier acte du Don Giovanni de Mozart en 1960 à Vienne sous la direction d'Erich Leinsdorf. Fernando Corena, basse suisse, qui eut une carrière très très belle dans les années 50, 60, 70, entre autres au Metropolitan Opera de New York, où il fut un grand habitué pendant 25 ans, et puis aussi à l'Opéra d'État de Vienne. C'était vraiment l'un des grands basses bouffes de l'après-guerre, mais stylé, quoique bouffe, avec une très très belle présence en plus. Et donc notre auditeur, Monsieur Feuillère, qui m'écrit « J'ai chopé l'autre jour le virus du beau chant grâce à la voix de Fernando Corena. C'est ce qu'on appelle le coronavirus. » Eh oui, c'est très bien ça. Non, c'est bon. Non, c'est drôle. Bravo, Monsieur Feuillère. C'est ce qu'on appelle, un lien entre la musique et l'actualité la plus urgente et la plus brûlante. Le coronavirus. Non, j'aime vraiment beaucoup ça. Bon, on va retrouver Fernando Corena dans ce qui suit en duo avec Luigi Alva, dans un extrait de l'Italienne à Alger.
Ci vorrebbero tante cose. Una pena in cento spose, una pena in cento spose, si potrebbe combinare, si potrebbe combinare. Se dovessi prender voglio, ci vorrebbero tante cose. Se dovessi prender voglio, ci vorrebbero tante cose. Una pena in cento spose, una pena in cento spose, si potrebbe combinare. Si credi a me, dimmi.
duo entre Lindoro et Mustapha au premier acte de l'Italienne à Alger de Rossini. C'était Luigi Alva, Fernando Corena, dirigé par Silvio Varviso. Lars Anders Tomter à l'alto, où jouait ici cette pièce tout à fait étonnante de Georg Philipp Telemann. Je dis étonnante parce que c'est un concerto pour alto. Et c'est le premier concerto pour alto qui ait jamais été écrit par un compositeur. C'est Telemann qui l'a fait. Faut dire 6000 œuvres à son actif. On les a pas toutes retrouvées. D'ailleurs, il nous en resterait quelque chose comme 3500. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dedans. Mais enfin, c'est de la musique qui a toujours beaucoup de caractère et très inventive, qui va chercher vers tous les instruments possibles et imaginables. Vous vous rendez compte, en ce temps-là, un concerto pour alto, oh, c'est plus quoi inventer.
Thank you.
Nouvel extrait d'un concerto en sol majeur de Georg Philipp Telemann, ici avec l'alto de Lars Anders Tomter, le basson de Martin Kuxmann. Ainsi s'achève cette émission. Un grand merci à Flora Sternadel, Louise Loubrieux et José Bernays.
Napoléon, on dirait que c'est la fin.
Ben oui, Lafayette, c'est la fin, mais c'est pas la fin de tout, hein, malgré le coronavirus. Mais non, rassure-toi, Lafayette, quelques semaines et tout ira bien. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de relax, nous aussi. D'ici là, profitez bien, portez-vous bien, tenez-vous au chaud. Et puis surtout, lavez-vous les mains. Bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.